Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, ce calme apparent observé sur toutes les lignes des fronts dans le Massissi, Niragongo et Rutshuru au nord Kivu, les FARDC renforcent et maintiennent leur position à Sake et environ, pendant que les Wazalendo procèdent au pillage des habitations des populations de Sake qui sont en fuite. Ituri, suspension des vols domestiques à la compagnie africaine d'aviation pour 3 semaines. La CAA veut ainsi passer un contrôle technique de ses avions. Du coup, les passagers à différentes destinations sont bloqués et se disent préjudiciés dans leurs activités. Et puis, l'invité de ce midi, Shadrack Tambwe, directeur de la radio communautaire Maniema Liberté, émettant à Kindu, il revient sur la journée de la radio ainsi que les difficultés auxquelles font face les radios communautaires pour fonctionner. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Un calme momentané s'observe sur toutes les lignes des fronts dans les territoires de Massissi, Niragongo et Rutshuru. Pendant ce temps, la cité de Sake vit au ralenti sous contrôle de l'armée soutenue par les combattants Wazalendo. Ces derniers se livreraient, d'après des sources locales, à des actes de pillage dans les habitations des populations en fuite. Le point de la situation avec Gabriel Wamenia.
Les armes se sont momentanément tues depuis hier mercredi en début de soirée jusqu'à ce jeudi matin après d'intenses combats qui ont opposé l'armée aux rebelles appuyés par l'armée rwandaise dans les collines de Ngingwe, Kagano, Muremure, surplombant la cité de Chacha entre la cité de Sake et la cité de Bweremana au sud. La situation reste toutefois imprévisible dans cette zone vidée de ses habitants. Certains acteurs locaux affirment que les FARDC renforcent et maintiennent toujours leur position à Sake et dans les environs de la cité. Ils redoutent les risques de la reprise des combats entre les belligérants. Les mêmes sources déplorent cependant des scènes qu'ils qualifient de pillages dans les habitations des populations de Sake enfouies par les Wazalendo. Des sources proches de l'armée font état d'un bouclage et d'un contrôle systématique dans la cité pour des raisons sécuritaires. Dans les fronts nord, en territoire de Rutshuru, la notabilité et la société civile locale confirme l'arrivée des renforts en hommes et en matériel depuis 3 jours au chef-lieu du territoire. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Entre-temps, une bombe au mortier a fait 2 morts et 3 blessés graves hier parmi les soldats du contingent sud-africain de la mission de la SADC déployée près de Goma. L'incident dont les auteurs et la cause ne sont pas encore connus est confirmé par un communiqué du département de la défense sud-africaine rendu public ce jeudi. Chris Mukand-Matand nous en dit plus.
C'est à 13h30 le mercredi 14 février qu'un tir au mortier atterrit dans l'une des bases militaires de troupes de l'Afrique du Sud, tuant 2 soldats et blessant grièvement 3 autres. Les blessés sont admis dans un hôpital de Goma pour les soins appropriés, renseigne le communiqué du département de la défense sud-africaine. Jusque-là, les détails sont incomplets et ne permettent pas de déterminer tant l'origine que la cause de cet incident. Une enquête sera incessamment diligentée afin de tirer au clair cette situation, ajoute le communiqué. Notez que le contingent sud-africain fait partie de la mission de la SADC déployée en République démocratique du Congo au mois de décembre 2023 pour soutenir, assister le gouvernement congolais dans ses efforts de ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans la province du Nord Kivu. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Par ailleurs, le ACR s'est dit profondément préoccupé par les conséquences désastreuses pour les civils au Nord Kivu, y compris environ 135 000 personnes déplacées qui ont fui le camp Zaïna près de Sake vers Goma. C'est à la suite de l'intensification de la violence les semaines dernières entre les forces gouvernementales et les groupes armés à l'est de la RDC. Le ACR appelle à une cessation immédiate des hostilités et à des négociations de paix afin de résoudre le conflit et d'alléger les souffrances des civils innocents pris au piège de la violence. Sifa Maguru.
Dans un communiqué du 14 février rendu public à Genève, le HCR se dit préoccupé par des informations faisant état des bombes tombées sur des civils, notamment dans les sites des déplacés de Zaïna à Sake et à Lushagala à Goma où sont hébergées 65 000 personnes. Le recours croissant à l'artillerie lourde et au bombardement lors des affrontements autour de Goma fait peser un grave danger sur les populations civiles déplacées et risque d'accroître le nombre de des victimes. Les engins non explosés constituent une menace particulière pour les enfants. Depuis la première semaine de février, au moins 15 personnes ont été tuées et 29 blessées autour des Goma et des Sake, indique le HCR. La situation est tragique et inacceptable. Nous appelons d'urgence toutes les parties à protéger les civils, à respecter les droits humanitaires et établir les couloirs de sécurité pour permettre l'acheminement de l'aide, a déclaré Chansa Kapaya, directrice régionale du HCR pour l'Afrique australe et coordinatrice régionale pour la situation des réfugiés en RDC. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, les habitants de la ville de Bukavu ont manifesté ce jeudi pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime dans sa partie orientale. La population demande au gouvernement congolais de rompre les relations avec tous les pays agresseurs de la RDC, mais aussi que la justice militaire s'applique avec rigueur contre les traîtres qui sont au sein de l'armée de la RDC. Emmanuel Elameji Wakabedi.
La marche pacifique de ce jeudi 15 février à Bukavu est une initiative de la société civile du Sud Kivu dans toute sa diversité. Partie de la place Moulamba, commune du Banda, pour chuter au cabinet du gouverneur de province, les manifestants condamnent la guerre en cours et recommandent ceci.
Pour la énième fois, nous exigeons le retrait immédiat de notre pays dans l'East Africa Community et de la francophonie. Les députés nationaux devraient voter urgemment une loi dans ce sens. La fermeture de nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda jusqu'à nouvel ordre.
Au sujet de la situation au front, la population du Sud qui vous recommande l'organisation d'une assistance humanitaire d'urgence en faveur des déplacés et d'autres victimes de guerre.
D'écarter tous les officiers militaires issus de différentes rébellions dans les opérations militaires à l'Est. D'activer la justice militaire dans toute sa rigueur à l'encontre des traîtres au sein de nos forces de sécurité. D'organiser urgemment une assistance humanitaire conséquente en faveur des déplacés de guerre au Nord Kivu.
Signalons qu'un dispositif policier important est placé devant l'Institut français de Bukavu et d'autres entreprises à capitaux étrangers. Aucun incident n'a été signalé. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Marche aussi à Kindu. Elle a été organisée mardi par les étudiants de la province du Maniema. Le but était de protester également contre l'envahissement de la partie est de la RDC par les rebelles du M23, appuyés par les pays voisins. Leur mémorandum a été lu et déposé auprès du gouverneur de province. Je vous le disais en titre, en Ituri, la compagnie africaine d'aviation CAA a suspendu ses vols durant 3 semaines. C'est pour le contrôle technique de ses avions. Conséquence, les passagers à destination de Kisangani, Isiro, Goma, Lubumbashi et Kinshasa sont bloqués et se disent préjudiciés dans leurs activités, surtout pour des urgences médicales. Les victimes demandent au gouvernement de relancer les compagnies nationales en vue de faciliter le transport aérien à l'intérieur du pays. Le point avec Isaac Remoyope.
Les bureaux de l'agence CAA est fermé depuis lundi à Bunia et tous les services suspendus, notamment la vente des billets et les transferts des colis et des courriers. Les voyageurs, dont des opérateurs économiques, des humanitaires et des particuliers, s'en plaignent car c'est la seule agence qui relie la province à d'autres villes du pays, dont Goma, Isiro et Kisangani. Ceux qui ont des invitations pour des ateliers, des rendez-vous médicaux ou des urgences qui nécessitent les transferts des malades s'inquiètent. D'autres passent par l'Ouganda par route ou voient la Kistre pour atteindre Goma et poursuivre les voyages. L'un d'eux revient sur les conséquences de cette mesure de suspension des vols.
Cette fermeture va vraiment impacter négativement pas seulement la ville de Bunia mais aussi d'autres endroits qui sont enclavés parce qu'il y a la sécurité et il y a l'état de la route. Les gens utilisent plus CAA. Il y a des endroits où par exemple la vie humanitaire ne fréquente pas. La fermeture cette agence, ça risque d'affecter vraiment négativement les commerçants, les humanitaires et bien d'autres personnes.
Face à ces défis, les voyageurs plaident pour la relance de la compagnie nationale Congo Airways en Ituri. Ils demandent aussi au gouvernement d'encourager les opérateurs économiques d'investir dans les domaines de l'aviation, plissant les droits et taxes dans ces secteurs. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'AFEC Tanganyika décrète des journées villes mortes à Kalemie à partir de ce jeudi, ce pour une durée indéterminée. Ainsi, toutes les activités commerciales sont paralysées, même les stations-service ne fonctionnent pas. Selon le président provincial de l'AFEC, les opérateurs économiques protestent contre le mauvais climat des affaires dans le Tanganyika. Jules Moulia indique notamment qu'au port de Kalemie, il y a 27 services de l'État qui tracassent les opérateurs économiques au lieu de 4 comme prévoit la loi. Le président provincial de l'AFEC préfet Tanganyika explique la situation au micro de Paulin Munanga.
Nous payons beaucoup de taxes au port de Kalemi. Il y a 27 services alors que la loi ne prévoit que 4 services selon l'ordre opérationnel. Celui qui coordonne l'ordre opérationnel, c'est la DGM. Nous avons écrit à la DGM, pas seulement à la DGM Tanganyika, nous avons écrit à la DGM Kinshasa pour la faire savoir de la situation qui prévaut à Kalemi. On n'a jamais eu une réponse satisfaisante. Il y a des taxes qui sont illégales au port de Kalemi. Une taxe de 3%. Donc quand vous venez de la marchandise de Goma, de Bukavu, d'Uvira, on vous traite comme si vous avez importé de la marchandise. Il y a un autre très sérieux problème qui impacte toute la vie économique du Tanganyika. C'est la situation de nos routes. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, Nyuzu n'est plus accessible. Ce n'est pas seulement les routes, même la voie ferrée, elle est coupée au niveau de Nyuzu. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est impossible d'aller à Kabalo, d'aller à Kongolo. Allons-nous continuer comme ça? Et alors la fête due aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Non, c'est non, on ne peut pas continuer dans cette situation.
Rendons-nous à Lubumbashi. C'est ce jeudi que seront connus les noms des 4 chefs coutumiers coptés qui vont siéger à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour y parvenir, les tractations sont en cours au secrétariat provincial de la CENI. D'après certains participants, plusieurs divergences persistent et en cas de manque de consensus, certains candidats seront départagés par le vote. Jean Gandou.
Les chefs coutumiers ont un quota de 4 sièges à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils sont recrutés dans les 6 territoires que compte la province. De ces 6 territoires, 2, à savoir Poueto et Kasenga, ne posent pas problème, car lors de la législature passée, ils n'étaient pas représentés. Ainsi, par le principe de la rotation, 2 sièges leur reviennent d'office. Si les territoires de Kasenga et Poueto ont déjà résolu cette question, nous apprenons néanmoins que le chef choisi dans les territoires de Poueto est contesté par une autre ethnie qui indique que le principe de la rotation et de la diversité ethnique n'ont pas été respectés. Pour cette ethnie, aucun chef coutumier Mouzela n'a été coopté depuis l'installation de l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi ils réclament pour que cette fois-ci, le siège leur revienne. Et les tractations sont en cours pour que les deux parties parviennent à un consensus. Ce mercredi, les chefs coutumiers de tous les 6 territoires étaient en réunion à la CENI Lubumbashi pour voir comment compléter les 2 sièges restants. Après plusieurs heures de discussion, les chefs coutumiers des territoires de Sakania, Kipushi, Kambove et Mitwaba ne se sont pas mis d'accord. Conséquence, ce jeudi, ils vont passer au vote avec les 4 candidats qui représentent les 4 territoires. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, la clôture de dépôt des dossiers pour les candidats gouverneurs se clôture demain, vendredi, selon le calendrier de la CENI. Entre-temps, au Kasaï, le mouvement Lutte pour le changement, Lucha, appelle les députés provinciaux à opérer un choix judicieux le moment venu pour trouver un leader, une personne capable de faire développer la province. Dans une déclaration hier, les jeunes de ce mouvement soulignent que ceux qui n'inspirent pas confiance ne peuvent être portés à la tête de la province. On écoute à ce sujet Joël Minga, l'un des membres de la Lucha au Kasaï, dans ses propos recueillis par François Kadima.
Il est temps de sauver le Kasaï. Depuis le découpage des provinces en 2015, le Kasaï peine à s'imposer sur la scène nationale comme une province émergente. Pourtant, nous regorgeons beaucoup de ressources géologiques, les diamants, les fers, étain, fer, nickel et consorts. Nous avons peiné à avoir de fortes institutions dans la province pouvant répondre efficacement aux grands défis. À l'approche des élections de gouverneur et vice-gouverneur, il est important pour nous, la population, de lever nos voix et accompagner les grands électeurs pour aboutir à un choix judiciaire. Nous ne voulons pas, cette fois-ci, que notre contrat social soit conclu avec ceux qui viennent à la tête de la province pour leur intérêt occulte et mesquin. Nous encourageons ainsi tout candidat désiré devenir gouverneur et vice-gouverneur de séduire les représentants du peuple par un projet bien chiffré, par ses qualités personnelles, notamment l'intégrité, la méritocratie, la probité morale, le leadership, la popularité, etc.
En sport, le joueur congolais héritier Luvumbu est rentré à Kinshasa hier en provenance de Kigali au Rwanda où il évoluait dans l'équipe locale de Rayon Sport qu'il avait d'abord suspendu pour 6 mois avant de résilier son contrat au motif d'avoir célébré un but avec le geste dénonçant les tueries dans l'est de la RDC lors d'un match de Premier League championnat national du Rwanda. Kanish Mukongo.
C'est aux environs de 14 heures locales que l'avion transportant les joueurs internationaux Luvumbuzinga a atterri à l'aéroport d'Njili, où il a été accueilli à Nero par les ministres des Sports. Le gouvernement de la RDC est solidaire avec ses joueurs patriotes, a déclaré François Kabulo Mona Kabulo, ministre des Sports.
Au nom du peuple congolais, Luvumbu héritier, nous vous souhaitons bon retour. Pour le moment, nous traversons une période extrêmement sensible et difficile. Les léopards ont fait la même chose. Vous êtes un léopard et c'est un message fort pour la communauté internationale. Et nous sommes très très solidaires.
Mis en cause, le joueur Luvumbu a dit être fier d'avoir fait sa part pour dénoncer ces tueries.
Merci d'abord.
Merci à mon Dieu de m'avoir protégé. Merci également au peuple congolais pour le soutien. J'ai reçu beaucoup de messages de réconfort sur mes réseaux sociaux. Je ne suis pas politicien. Je n'ai insulté personne par ces gestes, mais je ne pouvais pas rester indifférent pour dénoncer les tueries de notre peuple dans l'est du pays. Ces gestes de Luvumbu est également salué par le président de son ancien club, l'AS Vita Club de Kinshasa, Amadou Djabir, dit qu'ils sont prêts à faire signer un autre contrat au joueur s'il accepte de retourner dans son équipe.
Actualité internationale.
Nous sommes au Ghana. Ken Ofiri Atta n'a plus la charge du ministère des Finances. Le désormais ex-ministre n'a pas survécu au vaste remaniement au sein du gouvernement opéré par le président ghanéen. La faute, sans nul doute, aux critiques dont il fait l'objet de la part de l'opposition, alors que la situation économique de son pays bat de l'aile.
L'invité.
Il s'agit de Shadrack Tamwelonde, directeur de la radio communautaire Maniema Liberté, émettant dans la ville de Kindu. Il revient sur la journée de la radio célébrée le 13 février, ainsi que les difficultés auxquelles font face les radios communautaires pour fonctionner. Shadrack Tamwelonde s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Tamwelonde, Shadrack, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Toute une journée consacrée à la radio, vous en tant que responsable d'une radio communautaire, la RTC Mali, parlez-nous un peu d'une courte historique de votre radio et comment elle fonctionne.
La radio télécommunautaire Maniema Liberté, en sigle la RTC Mali, est un média communautaire et associatif émettant dans la ville de Kindu depuis le 21 février 2006. Aujourd'hui, nous avons plus de 17 ans d'existence. La RTC Mali est une initiative de l'ONGDH de défense des droits de l'homme Maniema Liberté. Ce projet a été rendu possible grâce au financement des NED, une ONG américaine. Notre radio a été créée dans le but d'accompagner les processus démocratiques avec l'organisation des premières élections libres, démocratiques et transparentes en RDC, les élections qui ont été organisées en 2006. Première radio communautaire et associative implantée dans la ville de Kindu sous le slogan « Rien que la vérité », la RTC Mali travaille suivant la ligne éditoriale résumée dans sa devise qui est « La paix, la démocratie et le développement. S'il faut vous parler aussi de la typologie d'auditeurs et de notre bassin d'audience, la RTC Mali, en tant que porte-voix des communautés locales dans la province du Maniema, dispose d'un bassin d'audience de plus de 90 km à 120 km en vol d'oiseau. Ça dépend aussi des reliefs. La RTC Mali couvre ainsi toute la ville de Kindu. Elle couvre également une partie des territoires de Kailo, Pangi, Kasongo, Kibombo et Punya. Et nous avons des auditeurs potentiels estimés à plus de 800 000 chaque jour. Et ces auditeurs constituaient du simple fonctionnaire de l'État, en passant par les cultivateurs, les paysans, des creuseurs artisanaux, des conducteurs de taxi-moto, pour finir par des commerçants ou encore des jeunes enfants.
Monsieur Shadrack Londé, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans le fonctionnement au sein de votre radio, la RTC Mali?
La grande difficulté de tous les médias du Maniema reste l'énergie. Et au-delà de l'énergie, il y a aussi cette deuxième difficulté qui est liée à diverses taxes et impôts. Par rapport à l'énergie, vous savez sans doute que la ville de Kindu ne dispose pas de sources sûres pour la desserte en énergie électrique, ce qui fait que nous sommes obligés de travailler avec l'énergie solaire et aussi avec l'énergie thermique ici des groupes électrogènes, avec les prix de l'essence, ça coûte extrêmement cher, ce qui ne nous permet pas vraiment de pouvoir desservir les auditeurs comme nous l'aurions souhaité. Nous travaillons le matin pendant 2 heures, de 5 heures à 8 heures. Nous arrêtons pour attendre le soleil à partir de 9 heures pour reprendre, en fait, pour arrêter à 15 heures. Et le soir, nous sommes obligés de recommencer avec les générateurs à partir de 17 heures jusqu'à 21 heures. Et donc, travailler le matin et le soir nous coûte énormément d'argent. Et par rapport à la difficulté liée à cette question des taxes, c'est tous les jours qu'on nous demande des taxes qui vont des services de l'environnement, la redevance annuelle. En tout cas, ça nous coûte extrêmement cher. Et avec les moyens des bords, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir nous prendre en charge.
C'est-à-dire que les radios communautaires n'ont pas le droit de faire passer les publicités?
Oui, bien sûr. À côté de ça, on n'a pas le droit de faire des publicités. On est obligé de nous limiter aux spots éducatifs, à caractère éducatif, ce qui constitue une grande difficulté.
Une bonne occasion alors pour vous, au nom des radios communautaires, de plaider aux autorités compétentes.
Et donc, c'est donc l'unique plaidoyer que je voulais ici faire au nom de tous les médias communautaires dans la province du Maniema. Ces problèmes de surtaxation, nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir voir comment alléger un peu cette question afin que nous, les médias communautaires, nous puissions continuer à travailler et desservir notre population proche, nos auditeurs. Nous sommes des radios de proximité. Avec ces problèmes de surtaxation, nous sommes appelés à disparaître demain si jamais les autorités ne traitent pas cette question avec un peu de sérieux.
Monsieur Shadrack Londe Tambwe, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste.
Le directeur de la radio communautaire Maniema Liberté, émettant à Kindu, répondait aux questions de Florence Kiza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.